On est dans les derniers jours avant le scrutin du 3 octobre et on poursuit notre tournée des candidats, les dernières entrevues qu'on réalise avec eux. Et aujourd'hui, on a le plaisir de s'entretenir avec le candidat de Climat Québec, Jacques Gélinot. Bonjour.
Bonjour à vous.
Aujourd'hui, on a plusieurs questions en vrac pour vous. On va parler de navettage, de réalité nordique, d'écoute des habitants. Et d'abord, j'aimerais vous entendre sur le navettage, les travailleurs permanents non résidents. C'est quoi votre vision du navettage à Fermont? Est-ce qu'il faut le réduire, selon vous?
Bien, on a toujours dit que ce sont des gens qui viennent gagner leur vie ici puis dépenser ailleurs. Donc, ils participent pas vraiment à l'essor régional. C'est plutôt une exportation de la richesse qui est créée en région puis qui s'en retourne vers les grands centres. Alors que moi, j'ai toujours été contre ça. Et d'autant plus, en plus de ça, quand on regarde ceux qui résident à Fermont, naturellement, ils ont des horaires qui sont inscrits dans la convention collective, mais quand il arrive des appels, ben là, souvent, dans les appels, dans des événements fortuits, là, des problèmes de production, tout ça, ben, on peut pas appeler les gens qui font du navettage. Fait que là, on est en train de pénaliser, avec l'ancienneté en plus, des gens qui ont fait le choix de vivre en région. Donc, oui, effectivement, le navettage, j'ai toujours été contre ça, puis je vais toujours être contre ça.
Et qu'est-ce
premièrement, de faire voyager des gens en avion pour venir travailler, je trouve que au niveau de l'environnement, c'est un non-sens. Je pense que quand tu travailles dans une région, tu dois, au même titre que ton alimentation, t'assurer que on ait de la proximité pour tous les services.
Comment est-ce qu'on pourrait faire, selon vous, pour réduire le navettage à Fermont?
Bien, le restreindre, on a des problèmes d'érosion de main-d'œuvre, donc il faut être un peu plus attractif. C'est bien certain que, quelque part, le panier d'épicerie est pas mal plus cher à Fermont qu'il peut l'être à Québec. Si on comprend ça, donc, je pense qu'en offrant des services de proximité, si on parle, mettons, d'agriculture, le panier d'épicerie, on parle d'agriculture, si on est capable d'en faire de l'agriculture de proximité en utilisant l'énergie de la mine pour s'assurer qu'on crée toute pièce des serres hydroponiques, ben là, on a peut-être finalement quelque chose d'intéressant qui, non seulement pour la baisse des coûts de production, mais c'est aussi pour le fait qu'on fait pas voyager nos denrées en région à partir des grands centres ou même d'outre-mer. Là.
Dans ce que vous dites...
Je pense que le réchauffement climatique, quand on commence à penser à des solutions pour régler le réchauffement climatique, on voit là des gains à tous les niveaux. Alors, c'est pas nécessairement d'augmenter ou de donner des primes, c'est surtout de s'assurer que ce qu'on achète, ben on le paie le juste prix. Et pour ce faire, je pense qu'on doit créer de toute pièce une autre économie parallèle à celle de la mine, qui est l'économie tertiaire, l'économie primaire aussi de l'agriculture. Les services doivent augmenter et doivent être de proximité.
Vous avez donné des exemples de réalité qu'on vit ici à Fermont et on se demande qu'est-ce que vous et votre parti chez Climat Québec pourriez apporter à la ville de Fermont et ses habitants pour leur permettre d'avoir certains avantages liés à leur réalité nordique. Vous avez mentionné l'agriculture, par exemple. Est-ce que vous auriez d'autres exemples de ce que vous pourriez apporter ici?
Bien, la réalité nordique, ça fait en sorte que... Vous savez, ça, c'est des petites populations, c'est souvent axé alentour des opérations de la mine, tout ça. Fait que ça devient un peu... c'est un genre de petit ghetto. Moi, je considère que ça ressemble plus à un ghetto quand on est rendu dans des villes nordiques comme ça, qui sont assujetties à des employeurs uniques. Là. Donc, c'est bien certain qu'à travers tout ce qu'on vient de parler, quand on dit faut augmenter les services, mais on parle d'art et culture, on parle de restauration, on parle de plein de choses. Mais pour ça, ça devient difficile si on adopte des comportements qui tournent strictement alentour de la mine. Alors, je pense qu'il y a des initiatives là-dedans qui sont beaucoup reliées au gouvernement de proximité, c'est-à-dire les municipalités. Vous savez, notre parti, c'est un gouvernement provincial. Si on comprend là qu'on peut inciter les gens à venir en région en donnant des ristournes d'impôts pour l'éloignement, mais je pense qu'il y a aussi c'est un effort collectif, c'est pas juste un effort d'un gouvernement provincial. Tout ça, c'est une question qui est très large. Et puis, vous savez, on est à la veille et que tous les drapeaux rouges là sont relevés face à l'économie actuellement. On dit qu'en 2023, on va tomber dans une récession mondiale. Alors, si les gens s'attendent de la part de Climat Québec puis son candidat dans Duplessis qu'il fasse le Père Noël comme les autres candidats des autres partis, moi, je ferais pas ça. Là. Je vous dis, j'essaie d'avoir un discours le plus honnête possible. On s'en va véritablement vers une récession. C'est sûr qu'à travers tout ça, il y a une réalité qui nous autres, prioritairement, c'est la réalité climatique, mais qui touche effectivement toutes les activités, les sphères sociales de la société. Donc, je pense qu'au départ, il faudrait commencer par faire des études pour regarder quelles sont les problématiques reliées réellement en région. Et à partir de là, de commencer à regarder les solutions qui sont conformes avec notre plateforme qui est reliée au climat. Là.
Si on veut ajouter des services à Fermont, si on veut faire du développement autant dans les différentes sphères et le faire évidemment dans le respect de l'environnement, c'est un sujet qui vous préoccupe beaucoup. Ça nous prend quand même des logements à Fermont. C'est complexe pour la construction, la rénovation, le développement quartier. C'est coûteux, c'est long aussi. Les gens souhaiteraient davantage de financement, par exemple, pour des programmes de rénovation, sinon d'aide à l'habitation. Vous, comme député de Duplessis, si vous êtes élu, est-ce que vous serez en mesure de soutenir la ville dans ses différents projets de développement, parce qu'on sait qu'il y a des coûts nordiques qui sont assez réels, qui sont plus élevés que dans le sud du Québec. Est-ce que vous seriez en mesure de soutenir ces différents projets-là?
Bien, ce sont des projets du type immobilier qui amènent une innovation au niveau des dépenses, des coûts énergétiques, c'est certain que Climat Québec va dans ce sens-là. On parle d'efficacité énergétique, nous autres. Mais de là à dire qu'on va littéralement investir pour des gens qui... Faut être sérieux, là, je veux dire. Les gens, ils gagnent 100 000 $ et plus, là, que ceux qui vivent à Fermont. Là. Que si les gens s'attendent que nous autres, on va faire des cadeaux, là, non, c'est hors de question. Nous autres, ce qu'on pense plus, c'est donner des leviers aux gens, pour ceux qui ont des maisons, de faire en sorte des leviers financiers qui font en sorte qu'ils peuvent s'en aller vers de l'efficacité énergétique, de la rénovation. On sait que ces maisons-là ont été construites dans les années 50, 60. On sait qu'il y en a beaucoup d'entre elles qui sont pas très efficaces au niveau énergétique. Or, si on fait de l'efficacité énergétique, mais vous savez, on n'a plus besoin de donner de l'argent aux gens. Les gens vont économiser de l'argent, qui va se dégager nécessairement des bénéfices financiers pour ces gens-là. Or, à travers les programmes d'efficacité énergétique de Climat Québec, je pense que là, on pourra avoir un semblant de solution, finalement, pour ajuster la dépense énergétique de l'immobilier. Puis si jamais il manque... vous savez, parce que l'employeur, c'est lui qui est le premier pénalisé, hein, quand tu commences à manquer de logement. Fait que s'il veut inciter des gens à venir ici, ben nous autres, on va pénaliser plutôt le flying flyer. À ce moment-là, on pourrait donner des ristournes d'impôts pour tous les employeurs qui pourraient faire en sorte qu'ils investissent dans leur communauté, tu sais, pour donner des logements abordables pour leurs travailleurs. En fin de compte, c'est juste un plan d'affaires, ce dont vous êtes en train de me parler, qui pourrait être avantageusement... financé par un gouvernement via une politique reliée toujours au climat.
Vous avez mentionné le salaire des travailleurs. Oui, à Fermont, on a une partie de la population qui a un salaire quand même élevé, mais il y en a une autre portion que ça dépend du domaine de travail, mais c'est souvent moins élevé. On passe dans le domaine de l'éducation, par exemple, dans les commerces locaux aussi, il y a des gens qui ont besoin souvent d'un petit coup de pouce de la part du gouvernement. On va prendre l'exemple en éducation. Est-ce que vous êtes d'avis que les conditions de travail des éducatrices en CPE ou sinon dans les écoles à Fermont devraient bénéficier de certains avantages dus à notre éloignement des grands centres et donc d'avoir des bonifications pour être à Fermont et pouvoir y rester?
Oui, tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, ça pourrait être un excellent incitatif justement pour meubler les services, meubler ni plus ni moins les différentes compétences qui sont reliées justement à l'éducation pour les services sociaux. Et aussi l'entrepreneurship. Hein? S'il y a des gens là-dedans qui voudraient éventuellement, on parlait de serre, de fabrication de serre, tout ça, faut aussi stimuler l'entrepreneurship. Parce qu'on est toujours là en train d'attendre, un peu comme des quêtes de job, j'appelle, là, attendre que tout ça nous arrive entre les deux mains, alors que beaucoup de gens ont développé des aptitudes, des compétences, ils ont juste besoin d'un petit encouragement financier puis fiscal pour se lancer en affaires. Alors ça va dans le sens que nous autres, on propose ça.
J'aimerais qu'on parle également des personnes aînées. On sait, affirmons, notre population est quand même assez jeune, mais on a une portion de personnes qui sont plus âgées, des travailleurs à la retraite ou qui souhaiteraient peut-être finir leur vie à Fermont, qui voudraient rester encore plusieurs années. Par contre, on manque de services pour eux. C'est un point que vous avez apporté un peu plus tôt, avoir des services de proximité, manque de logement et les déplacements aussi, ça peut devenir compliqué pour se rendre dans les villes là, pour recevoir certains soins. Est-ce que vous croyez que la construction d'un centre de personnes âgées ou de retraités avec services serait nécessaire à Fermont pour améliorer les conditions de vie de ces personnes-là?
Oui, mais c'est des gens souvent qui peuvent jouer aussi encore un rôle actif dans la société. Là, on l'a vu, beaucoup de gens prennent leur retraite et puis ils peuvent revenir éventuellement combler des besoins pointus en main-d'œuvre de façon temporaire ou saisonnière. Donc, oui, dans ce sens-là, je pense que en construisant aussi des logements sociaux, vous savez, l'investissement d'un logement social, c'est pas de l'argent non plus qui est gaspillé, parce que à même la perception des loyers, on est capable finalement de financer la dette à long terme requise pour la construction des logements sociaux. Fait que je pense que oui, on a regardé la CAQ, hein, elle avait promis 15 000 logements sociaux, finalement ils en ont créé 2 500. Puis je pense que je comprends pas d'ailleurs c'est le fait qu'ils n'ont pas atteint leurs objectifs, parce que comme je disais tantôt, c'est un investissement, c'est pas une dépense là. Et puis faut toujours regarder le bénéfice des gens qui ont un certain âge. Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à la société ou qu'est-ce qu'ils amènent à la société plutôt que les cloîtrer dans des CHSLD, plutôt les maintenir proches de leur famille pour s'assurer qu'ils continuent à jouer un rôle actif dans la société. Donc, vous savez, l'environnement, c'est l'environnement social aussi. C'est pas juste l'environnement, les sapins et les plantes. C'est l'environnement économique, c'est l'environnement social. Et tout ça, on doit s'assurer qu'on l'enrichisse. Je pense que les différents gouvernements qui se sont succédés au cours des décennies ont souvent oublié ça. Oublier le fait que la véritable richesse, c'est pas l'argent dégagé par une entreprise qui va marcher 15 ou 20 ans. C'est la vraie richesse, c'est sa population. Ce sont eux qui créent de toutes pièces des services, qui nous rendent des services, qui créent des entreprises ou encore qui jouent un rôle actif au niveau social pour s'assurer que toutes les populations soient maintenues en équilibre. Fait que moi, je pense que oui, faut regarder du côté plus humain maintenant. On sait qu'on s'en va vers une décroissance et de plus en plus, on va avoir besoin que les gens se serrent les coudes entre eux. Alors oui, ça rentre dans nos objectifs.
J'aimerais qu'on parle également de transport de marchandises jusqu'à Fermont. Vous avez parlé de créer des projets liés à l'agriculture dans les différents endroits isolés, éloignés à Fermont. Il y a déjà la Gourmande, qui est une coopérative de solidarité qui essaie de développer justement une certaine agriculture nordique ici à Fermont. Mais maintenant, il y a là aussi ça pourrait être une piste de solution pour essayer de réduire un peu le coût de transport des marchandises. Mais là, on parle d'aliments, mais toutes les marchandises ont un coût assez grand pour se rendre jusqu'à Fermont. Est-ce que vous croyez qu'avec une personne comme vous pour représenter Duplessis, le prochain gouvernement pourrait créer peut-être un crédit fiscal aux entreprises commerciales ou sinon trouver un moyen d'amortir les coûts de transport de marchandises jusqu'en région éloignée ici?
Moi, comme je vous dis, je ne suis pas là pour faire des cadeaux. Hein. Je ne suis pas là non plus pour promettre la mer et monde à la veille d'une récession mondiale, je vous l'ai dit tantôt. Pour l'instant, je vous dirais qu'actuellement, tout ça est acheminé via Poirier ou encore par les vannes. Bon, est-ce qu'il y aurait véritablement une façon de baisser les coûts au niveau du transport? Je vous dirais que peut-être dans une meilleure gestion de l'offre aussi, la meilleure gestion de l'offre au niveau du transport généralisé des denrées. Parce que je sais que ça coûte pas mal moins cher de monter un fret que de monter une vanne. Que peut-être qu'il y aurait peut-être une possibilité à même le final, parce qu'on a une bourse du carbone au Québec, comme vous savez, à même des incitatifs de cette bourse du carbone-là que ArcelorMittal paye de façon généreuse à tous les ans. Peut-être qu'il y aurait moyen de dégager un projet qui pourrait utiliser beaucoup plus le transport sur rail pour acheminer les denrées de base à Fermont, puis à partir de là, ben, il pourrait faire des gains substantiels parce qu'il y a toujours un coût énergétique, un coût carburant, un coût à tout, hein, quand on transporte des denrées de base. Alors, peut-être qu'il y aura moyen d'inciter cette entreprise-là à faire en sorte qu'elle joue un rôle un peu plus important dans l'acheminement du matériel ou des denrées de consommation vers Fermont.
Vous m'amenez à ma prochaine question, M. Gélinot. On a des besoins énergétiques à Fermont pour développer certains projets, pour aussi aider les entreprises minières dans leurs projets de décarbonation. Est-ce que vous seriez prêt à appuyer ces projets-là en comblant le déficit énergétique du secteur de Fermont pour aider là-dedans, là, notamment par la construction d'une nouvelle ligne de transport 315 kV entre le poste montagnier et Fermont?
Oui, oui, tout à fait. Puis en plus, on pourrait même électrifier... On pourrait penser même que l'entreprise pourrait électrifier son transport de minerais. Hein? Donc, je pense que c'est une entreprise qui consomme plusieurs dizaines de millions de litres de fioul par année juste pour le transport du minerai. Si on pourrait électrifier ou même un programme d'économie énergétique, là. Des programmes qui existent déjà d'ailleurs, on n'inventera pas à roue, là. On pourrait faire en sorte que cette entreprise-là se décarbonise de façon rapidement et qui retire les bénéfices finalement, même la contribution qu'elle fait actuellement pour la bourse du carbone. Nous autres, on va dans ce sens-là. Puis en plus de ça, nous, ce qu'on propose aussi, c'est de ramener, ni plus ni moins, l'exportation d'Hydro-Québec là, actuellement vers New York, tout ça, mais commencer à penser que plutôt que donner nos surplus énergétiques aux États-Unis, là, on pourrait peut-être commencer à penser que cette énergie-là, on pourrait peut-être l'utiliser pour commencer à fabriquer de l'hydrogène puis des carburants plus verts, tu sais. Et là, je fais comme référence à partir des résidus de bois, de la scierie, l'huile pyrolysée qui pourrait être utilisée à l'intérieur du procédé de boulette. Mm-hmm. On voit que la CAQ n'a pas été là, n'a pas été au rendez-vous là pour stimuler et aider cette entreprise, la relance de cette entreprise-là. Enfin, non, nous, on ne faut pas juste la stimuler, mais on va peut-être s'assurer qu'il y en ait d'autres projets comme ça aussi. Là.
J'aimerais qu'on parle également de l'écoute des habitants. Jusqu'à maintenant, les candidats, vous êtes tous d'accord sur le fait de devoir être à l'écoute des habitants pour mieux répondre aux besoins dans les communautés, si jamais vous devenez le député de Duplessis. Mais dans plusieurs dossiers, les résidents ne se sentent pas toujours écoutés ou appuyés. Je donne un exemple, le projet d'agrandissement du parc à résidus et de la halle d'astéril du lac Bloom, qui a été non recommandé par le BAP. Il a été quand même approuvé par le gouvernement. À ce moment-là, les Fermontois ont senti très peu d'écoute de la part des élus provinciaux. Et maintenant, on a un autre dossier en cours, celui du projet d'exploitation de quartz au lac Topper. C'est un lieu qui est situé près de Fermont, dans le même bassin versant que la source d'eau potable de la ville. C'est aussi un endroit apprécié pour sa vue, son environnement et plusieurs personnes qui s'y rendent pour faire du plein air dans le respect de l'environnement et tout ça. Comment est-ce que le futur député de Duplessis peut faire pour porter la voix des Fermontoises et des Fermontois dans ce genre de dossier-là qui peut mettre à risque l'environnement qui nous entoure ici et s'assurer que leurs propos soient entendus, mais aussi que leur opinion soit véritablement prise en compte à l'Assemblée nationale?
Ben, avec une ligne directe. Vous avez le meilleur porte-parole au niveau de l'environnement là, pour ce qui est dans le comté de Duplessis. Là. Et puis, il faudrait commencer à penser aussi que le ministère de l'Environnement, là, on y a donné parmi les plus grands mandats qu'il y a suite après la santé et de l'éducation. C'est le ministère de l'Environnement qui est le ministère le plus sollicité. Donc, je vous dirais qu'on y a enlevé toutes les dents. Là. C'est aussi le ministère le plus sous-financé qu'il n'y a pas. Donc, des lois qui maintenant ne peuvent même plus être mises en application parce qu'il n'y a plus personne pour faire respecter ces lois-là. Donc, puis en plus, au niveau du BAP, ben peut-être que là, pour l'instant, le BAP, jusqu'à maintenant, a toujours joué un rôle qui était plus symbolique. Hein? C'était plus un pouvoir de recommandation. Alors, peut-être que dans certains cas, à certains égards, on pourrait lui donner un mandat qui est plus, pas coercitif, mais qui est plus directif. Qu'il ne soit pas juste... une recommandation. Moi, je pense que les gouvernements ont toujours eu un peu trop de pouvoir concentré entre le premier ministre puis le conseil des ministres. Il y a à peu près 6 ou 7 personnes dans l'ensemble du gouvernement qui décident de tout, là. Fait que, il y a des fonctionnaires qui aimeraient bien que leur ministère retrouve leur vigueur, mais on s'assure qu'ils soient muselés puis qu'ils jouent pas le rôle qu'ils devraient jouer. C'est parce que souvent, on pense que l'environnement va venir miner l'économie. Souvent, quand on parle de protéger l'environnement, ça, à long terme, ça finit tout le temps avec des économies de sous pour les entreprises. Fait que je pense que les gens, quand ils vont avoir compris qu'à protéger l'environnement, c'est souvent des économies d'énergie, puis des économies économiques, puis c'est aussi ce sont des bénéfices sociaux, ben là, peut-être que on va avoir compris, puis on commence à être tard pas mal, hein, pour comprendre tout ça. Là, il est minuit et demi, là. Fait que je pense que oui, je pense que l'écoute, non seulement elle va être là, mais il va avoir une ligne directe avec les citoyens.
J'aimerais qu'on complète, M. Gilneau, avec l'accès à la villégiature. Comment, selon vous, est-ce qu'on pourrait faciliter l'accès à la villégiature sur les terres du domaine public pour les résidents de Fermont?
Bien, là, vous m'en apprenez une bonne. Je ne pensais pas qu'il y avait des problèmes d'accès à la villégiature sur les terres publiques. Pouvez-vous m'orienter un peu plus sur cette problématique-là?
Ça peut être un peu long des fois avant que les résidents puissent avoir accès aux documents, les baux de villégiature et tout ça. Ça passe par le ministère des Ressources naturelles, si je me trompe pas. Et ça peut être plus long avec les démarches, alors que certains aimeraient que ce soit la MRC qui puisse faire ces différentes démarches-là pour que ça puisse faciliter l'accès à la villégiature. Il y a beaucoup de gens à Fermont qui profitent des endroits autour de Fermont là pour avoir un chalet ou un endroit où aller les fêtes de semaine à la période de la chasse et tout ça. Donc, c'est un des enjeux qui concerne les gens d'ici qui ont beaucoup de chalets près des rivières et tout ça. Et en fait, les gens demandent une facilitation de cet accès à la villégiature-là. J'imagine que c'est un dossier que vous allez peut-être prendre connaissance prochainement.
Oui, c'est ça. Je commençais par prendre connaissance avant de dire n'importe quoi sur cette problématique-là. Je sais qu'il existe une façon de s'assurer qu'on soit capable d'avoir un bail pour construire juste pour l'emplacement d'un chalet. Là. Je dois moi-même approcher le ministère des Terres pour ça. Mais je pensais pas qu'il y avait une problématique reliée à ça. Là. C'est sûr que quelque part, il y a sûrement à un moment donné aussi, c'est beau vouloir faire des chalets partout, là, mais il faut s'assurer non plus qu'on défasse pas l'environnement et le paysage non plus. Là. Donc, franchement, je n'oserais pas vous répondre à celle-ci. Là. J'aimerais mieux prendre connaissance plutôt de cette problématique-là avant de répondre.
Aucun problème. En terminant, est-ce que vous auriez un dernier mot pour les électeurs de Fermont qui s'apprêtent à aller voter le 3 octobre prochain?
Oui, j'ai un dernier mot à dire à tous les électeurs. C'est qu'on s'apprête encore une fois à aller voter pour les gens qui peuvent nous donner le plus. Et ça, je le déplore grandement parce que là, franchement, vous avez vu le petit ouragan là, qui vient de passer, là, mais ça va s'amplifier au cours des années. La fréquence et la puissance des ouragans et aussi les couverts de glace qui vont s'amoindrir, les terres agricoles, s'il y en a qui ont regardé le devoir là, d'aujourd'hui, ils parlent justement, les agriculteurs commencent à lever le drapeau rouge pour dire qu'on a des problématiques au niveau du Québec pour les terres agricoles, soit pour la sécheresse, pour l'acquisition de l'eau, pour les cultures. Là, on commence à vivre le début d'une série de cascades que le réchauffement climatique va nous apporter. Là, on ne parle même pas des insectes ravageurs puis des feux de forêt. Là. Les problématiques reliées au climat, ils sont incommensurables puis vont être très, très difficiles à gérer. Ils vont coûter une fortune à la société. Fait que là, méfiez-vous de ceux qui vous promettent, mère et monde, qui vous promettent de vous faire des cadeaux. Et commencez à penser, franchement, là, il est peut-être rendu le temps qu'on arrête de voter pour ceux qui nous présentent des cadeaux, puis qu'on commence à voter vraiment pour les vraies choses. Soit notre avenir, puis l'avenir des futures générations.
Jacques Gélineau, vous êtes le candidat de Climat Québec dans Duplessis. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous parler de Fermont et aux gens de Fermont une dernière fois avant le scrutin du 3 octobre prochain. Je vous souhaite une très belle journée et on se dit à bientôt.
Ça fait plaisir. Bonne journée à toute la population.
On vous rappelle bien sûr que le scrutin, c'est le 3 octobre prochain, donc on vous invite à aller voter et on vous invite aussi à vous rendre sur notre site web au cfmf.rex pour les entrevues complètes avec les candidats des différents partis dans Duplessis.